bienvenue dans ce quatrième épisode du Lama Project Podcast. Le Lama Project, c'est un laboratoire d'idées qui contribue à la transition des modèles économiques de stations de ski. Alors on précise toujours au début de nos épisodes, pour ménager certaines sensibilités, que nous ne sommes pas contre les stations de ski, nous ne sommes pas contre le ski alpin. Tout au contraire, c'est de là d'où on vient, c'est notre culture et c'est aussi surtout une passion parce qu'on adore le ski. On constate, comme beaucoup d'autres, que ce modèle économique installé dans les années 60 est menacé. Et ce sont ces dangers et ces enjeux que nous souhaitons évoquer avec nos modestes armes qui sont des micros, des idées, des discussions, des rencontres. Et nous pensons aussi et surtout que c'est en enrichissant nos visions du monde que nous allons pouvoir faire avancer les choses. Tom Wallis, merci de nous rejoindre pour ce quatrième épisode du podcast du Lama Project. Alors toi, tu as un profil un peu particulier. T'aimes te définir comme un homme d'action et pour te connaître un tout petit peu, je confirme. T'es un consultant qui préfère appliquer ses conseils plutôt que les donner. Et t'es aussi entrepreneur à Corançon en Vercors. Et tu fais partie, et c'est pour ça qu'on a souhaité t'inviter dans ce podcast, de ces francs-tireurs qui ont des bonnes idées, mais qui sont un peu isolés politiquement, et qui ont peu de relais pour concrétiser les idées qu'ils peuvent avoir. La première question que je pose traditionnellement aux invités du podcast, c'est quelle est ta définition de la transition, ce fameux mot que tout le monde a sur la bouche aujourd'hui ?
Alors, bonne question, bonne première question. La transition, pour moi, c'est arriver à sortir des critères établis de pourquoi on met notre montre à gauche à comment on va sortir de l'or blanc. Mais ça ne veut pas dire abandonner, ça veut dire se servir, ça veut dire évoluer, mais arriver quand même à quitter un modèle pour aller vers un autre. Donc voilà, quelle que soit la taille du business ou le business, on est quand même ancré sur son modèle et on a du mal à passer au suivant. Et on peut voir même les plus grands constructeurs automobiles se faire dépasser par un petit challenger qui devient numéro 1 en capitalisation devant tout le monde. C'est très étonnant. Ça veut vraiment dire qu'on a du mal à enclencher la transition.
Ou un leader comme Kodak ou Nokia sur leur marché, un leader incontesté et historique, qui en quelques années disparaissent quasiment complètement parce qu'il y a eu un challenger sorti de nulle part.
Et c'est vrai que quel que soit le business, un boulanger qui ne voit pas venir... la tendance de la vente emportée ou du café. Et finalement, on peut vite à rester sur nos modèles établis, voire passer le train. Quoi.
Et tu penses que c'est possible que les stations de ski, qui sont quand même qui ont une puissance économique et une assise importante, est-ce que tu penses qu'ils peuvent, non pas disparaître, mais peut-être s'effondrer assez rapidement ?
Après, je pense qu'on est assez, de nature assez... Enfin, les stations l'ont déjà montré, elles savent se remettre en question et elles sont créées sur un monde paysan devenant un monde économico-touristico lourd. Donc j'ai assez confiance, mais il faut reconnaître qu'on a quand même touché l'apothéose avec notre or blanc et que c'est dur, quand tout va bien, de se réinventer. Donc peut-être il faudra effectivement, comme disait le maire de Los Angeles, rentrer dans le mur, broyer du noir. Et en ce moment, tout va quand même plutôt bien pour nos stations. J'espère que cette énergie-là va permettre d'innover, tenter, essayer, se tromper, recommencer.
Quelle est ta définition du modèle économique sur lequel les stations de ski sont installées ?
Bon, bah donc moi, je suis plutôt petit français, même si j'ai travaillé aux États-Unis. Donc, on a notre modèle loin d'être intégré. Donc, notre modèle actuel, effectivement, il est un petit peu challengeux parce que c'est beaucoup d'acteurs qui doivent agir dans un même sens, donné par presque personne. L'intérêt général, peut-être les autorités organisatrices, les mairies, mais ensuite, c'est quand même beaucoup d'intérêts privés qu'on a du mal à regrouper vers la même stratégie de destination, stratégie, ambition. Il est un peu disparate quand même, le modèle actuel.
Ou fragmenté, on pourrait dire.
Et du coup, compliqué à aller dans le même sens, en cohérence, même si le client est de plus en plus clair, même si les stations ne le sont pas, le client arrive avec ses attentes qui évoluent du départ de son chez-lui urbain jusqu'à son arrivée en station. On n'aura bientôt pas le choix, il faudra quand même qu'on gagne en cohérence.
Est-ce que tu penses que les stations écoutent et connaissent surtout suffisamment leurs clients ?
Alors bon, je ne sais pas si on peut généraliser, mais globalement, j'ai quand même l'impression que nous, les montagnards, on a tendance à être un peu trop dans nos montagnes. Voilà, que d'écouter ses clients, c'est pas juste aller sur Google le soir, c'est vraiment d'aller comprendre ce que c'est qu'un temps d'attente, comment on réserve, qu'est-ce qu'ils font les week-ends. Est-ce que, enfin, on a vu avec le Covid, quand c'était le périmètre des 100 km, que finalement les locaux, c'était aussi une cible étonnante. Et tout le monde le savait et personne s'en occupait. Du golf de la station qui va pas chercher ses scolaires la station de ski qui pense à aller à l'autre bout du monde chercher du client alors qu'il y en a peut-être moins loin et plus fidèle.
Cela dit, le modèle économique aujourd'hui, il s'appuie aussi sur un foncier au prix qui commence à crever les plafonds et donc qui est très dépendant de la clientèle étrangère et fortunée.
Oui, c'est certain. C'est vrai que bah, y a que des petites bulles d'oxygène, mais globalement, c'est vrai que la tendance est quand même tellement à la hausse que ça devient impossible. Le meilleur exemple est saisonnier, hein, c'est qu'on a des modèles économiques dans notre petite activité commerciale où on n'a bientôt plus de personnes pour travailler, tout simplement. Donc, encore plus pour les gens qui veulent habiter à l'année. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet parce que là, le foncier va bientôt nous empêcher d'être vers ce qu'on a envie d'aller, vers de créer des nouveaux produits, parce qu'il y a cette obligation économique étonnante au démarrage, quoi.
Et ça, tu le vois, par exemple, dans l'auberge, le restaurant que tu gères à Corançon?
Alors, ben, un petit peu, parce qu'on nous a traités de fous quand on a racheté un restaurant sans eau, sans électricité, à 2 km de marche, loin de tout, réseau et trafic. Mais c'est difficile pour trouver des saisonniers, puisqu'il faut arriver maintenant à les loger. Et du coup, pour les loger en station, ça devient quasiment impossible.
On le voit bien cette année, en rajoutant par-dessus la crise Covid, le pass vaccinal, etc., ça devient compliqué.
C'est vrai que là, c'est difficile de faire de la qualité et du service si on n'a pas d'équipe, quoi. Et du coup, c'est vrai que ça nous oblige à résoudre le problème dans sa globalité, et pas que en parc d'attractions ou en animation. Il faut vraiment qu'on raisonne au global, en fait.
Comment ? Alors, quels sont justement les principaux dangers ou obstacles auxquels les modèles économiques des stations de ski ont à faire face pour s'adapter tout simplement au monde qui change et aux clients qui changent?
Alors moi, l'enjeu primordial, je trouve, c'est, une fois qu'on a défini une stratégie, c'est d'arriver à comprendre qu'on est rentré dans une ère de service. Et du coup, il faut que même si la neige est belle, que les émotions sont incroyables, qu'on arrive à comprendre que nos clients, ils viennent chercher du service. Ils viennent chercher une expérience, ils viennent plus acheter des choses sèches. Et donc un forfait en caisse ou une raclette dans un resto, il faut qu'on arrive à être beaucoup plus sur du tout compris et sur et beaucoup plus évocateur d'expériences, de moments plus innovants au global, en fait.
Tu as cette phrase que j'ai notée, il faut passer de l'équipement au service.
Ouais, en fait, ce que je voulais dire, c'est que globalement, on est très technique en station de ski, de nos services techniques, de nos services de piste, de nos équipements de remontée mécanique. C'est quand même beaucoup de technique, et heureusement, il ne faut surtout pas quitter ce savoir-faire-là, cette législation-là, mais pas oublier le client qui, lui, se fout de savoir comment ça fonctionne et des grandes révisions et du déneigement et la largeur de la lame. Et il vient chercher du dépaysement, il vient chercher une expérience, un moment, et c'est ça qu'il faut qu'on lui offre. Et du coup, c'est vrai que je pense qu'il faut plus qu'on se mette à vendre du service, une émotion, une montée en calèche pour aller dans une auberge perdue, plutôt que juste la raclette au bout de kilomètres de marche. Nous, on s'est amusé à éclairer un chemin en pleine nature, en pleine forêt, avec une guirlande solaire. Les gens nous parlent plus de la guirlande parce qu'ils marchent sur de la neige illuminée que sur la raclette qu'ils sont en train de manger. Mais au final, ils passent une bonne soirée et du coup, ça permet de conserver les marges ou d'améliorer les marges. C'est ça qui est intéressant.
C'est vrai qu'il y a plein de petites étapes dans l'expérience globale du client qui monte ski en station de ski qui sont peu ou pas du tout soignées parce que c'est de la responsabilité d'acteurs. Je pense par exemple au transport, enfin, ou se déplacer jusqu'à la station de ski, les parkings. Juste ça, ça fait partie du service.
Et c'est vrai que là, tous les acteurs se déresponsabilisent un petit peu sur le public. Et il n'y a pas vraiment de solution, surtout quand il y a de la neige et du soleil. Heureusement, il y a deux si dans la phrase. Hein. Il faut qu'il fasse beau et il faut qu'il y ait de la neige. Ce que moi, je trouve d'une vulnérabilité étonnante. qu'on accepte ça. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de maillons dans notre chaîne des vacances ou du week-end qui sont pas sérieuses, en fait, qui sont vraiment pas responsables. Et donc, ça va parce qu'on a beaucoup de clients, mais si c'est vrai qu'il y a de moins en moins de jeunes et que c'est de moins en moins attractif et de plus en plus cher, on n'aura pas le choix, en fait.
On sera obligé
de progresser sur ce service et sur cet accompagnement-là.
Est-ce que tu as un exemple positif d'une qualité de service qui, pour toi, devrait être le standard des stations de ski françaises?
Moi, je me suis souvent étonné quand même quand on rentre dans un Apple Store, ou que ce soit sur la planète. On a, alors encore plus en France, parce qu'on compare avec nos concitoyens, nous-mêmes, nos difficultés à embaucher, mais on a l'impression qu'on n'est pas en France, justement, avec les mêmes conventions collectives, les mêmes règles, tellement la relation est autre, et tellement on est dans des dispositions à consommer. Donc, ils ont une notion, je trouve, de service, d'accompagnement, de soutien, de présence, d'atelier, qui est déstabilisante quand dans le resto d'à côté, on vient de nous expliquer qu'on pouvait pas recoter, que c'était compliqué. Voilà, je trouve que le contraste de nos Américains à la pomme est assez étonnant. Et je pense que même nos conseillers en séjour en office de tourisme et tout ça devraient s'inspirer de cette approche-là.
Est-ce que pour toi, la transition, cette fameuse transition, cette transformation des modèles économiques des stations de ski, est-ce qu'elle est réellement en route? C'est-à-dire, tout ce que tu nous décris là, est-ce que c'est sérieusement étudié, travaillé et mis en place?
Donc malheureusement, non. Je trouve qu'à part dire développement durable, bien-être et quatre saisons, on ne dit pas grand-chose.
Diversification, bienveillance, tourisme bienveillant, la région Rhône-Alpes. J'ai toujours pas compris ce que c'était d'ailleurs. Tu pourrais m'expliquer ce qu'est le tourisme bienveillant?
Écoute, c'était bien expliqué pourtant, mais c'est vrai que s'il fallait arriver à regrouper autant de destinations et de régions sous la même bannière, ce qui n'est peut-être pas une bonne chose non plus d'ailleurs, les gens cherchent pas mal de différences maintenant. Mais en tous les cas, je trouve que c'est que des mots en fait. Donc c'est très bien parce qu'on en parle. Il y a quelques années, pas si longtemps, on était encore dans certains dénis. Climatique, social, financier, ce qu'on veut. Maintenant, on se rend compte qu'il va bien falloir qu'on change. Mais clairement, à part la luche sur rail et la tyrolienne à virage, on n'a pas fait grand-chose, quoi. Ou les Via Ferrata, mais là, je remonte il y a 15 ans, je crois.
La luche 4 saisons. Voilà. alors, toi, tu as travaillé sur un modèle de développement, même un business plan de développement très détaillé pour Corançon. Est-ce que tu pourrais nous raconter rapidement ton expérience avec ce pool d'investisseurs qui avait été réuni par Tony Parker et nous expliquer ce qui s'est passé?
L'idée d'une station de moyenne altitude, c'était d'être exemplaire et de prendre un virage un petit peu avant les autres, pas pour être avant les autres, mais juste pour être aussi dans l'action, dans le changement, dans la participation à la montagne qui doit se renouveler. C'est pour ça que je suis obligé de faire un clin d'œil à Olivier Erard, qui lui-même nous fait bénéficier de sa méthode et de son avancée.
De Métabillet, qui est donc l'invité, tu étais présent d'ailleurs le jour de l'enregistrement du premier podcast, du premier épisode du Lama Project Podcast.
Dans le même genre de cette approche, Tony Parker souhaite être exemplaire, a pas acheté une station de ski par hasard ou pour faire plaisir à sa femme, comme on l'a entendu. C'est bien parce que c'est un homme de challenge, un travailleur, un méthodique. Et du coup, nous, plusieurs jeunes du territoire de Villard-de-Lans et Corançon, on s'est associés à lui pour transmettre un peu cette culture montagne. Et moi, je m'étais en charge d'écrire la stratégie du projet et d'aller jusqu'à une définition même dans le design du projet. C'est-à-dire que par zone, on savait ce qu'on allait faire toute l'année. Pas que quand il y a de la neige et du soleil, justement. Et puis... chemin faisant, Covid aussi aidant, je me suis rendu compte que le collectif, qui est un mot-clé, je pense, quand on vient du basket, et la vision générale de la montagne est quand même souvent un peu identique. Et moi, j'avais tendance à sortir de ce collectif-là et à me sentir mal à l'aise quand on restait dans la monoculture, quelle qu'elle soit, de l'or blanc ou autre. Quand on restait sur des schémas un petit peu traditionnels, d'une caissière par exemple, je revois certaines discussions qu'on a eues sur presque tous les sujets qui composent un domaine skiable. Et donc en fait, malheureusement, je sens que on n'est encore pas allé assez loin pour qu'on puisse être prêt à tenter. Tenter, ça veut dire prendre des millions qu'on fait les week-ends de neige et soleil et les investir presque à fond perdu au début, mais en fait pour devenir exemplaire, pour tenter des choses, pour changer les modèles, pour essayer autrement et localement, parce qu'effectivement ce ne sera pas un modèle duplicable comme l'était le ski. Et on ne pourra pas réinventer le ski, on ne pourra pas remplacer le ski. Et on souhaite que le ski continue encore longtemps, parce qu'on en a besoin, tous. Mais on sait aussi, surtout à moyenne altitude, qu'il y a un potentiel incroyable. Le Vercors, on est en plus à proximité de certaines grandes villes. Et que si on change la manière d'accéder à la montagne, de tarifer la montagne, d'être fidèle à la montagne, et de venir se ressourcer à la montagne, donc là, je pense à la santé, je pense à l'approche sportive, je pense au ludique, évidemment, on doit pouvoir tout réinventer.
Et la fin de l'histoire, c'est que ce projet très complet et très détaillé n'a pas été appliqué.
Alors, moi, je ne me sens pas à l'aise et je suis tout juste ressorti de ce projet au niveau actionnariat. Mais par contre, j'espère qu'il sera en partie appliqué. C'est-à-dire que la stratégie a quand même été livrée, elle a eu bon écho et maintenant, il reste à la mettre en place, ce qui est le plus dur. Et c'est là où c'est moi, mon cœur de métier, c'est de rendre concret les choses. Donc, un peu frustré, je continue à œuvrer sur des plus petits schémas que les remontées mécaniques pour arriver à quand même montrer qu'on peut faire autrement.
Ce qui est assez étonnant, et tu me diras si tu es d'accord avec ça, c'est l'absence de stratégie sur le long terme. Pour se transformer, il faut savoir où on va. Et c'est ce qu'explique très bien Olivier Hérard sur l'histoire qu'une collectivité, un territoire va se raconter sur son avenir. Et je suis assez frappé par l'absence de réflexion sur dans quel futur on veut vivre, quel est le futur qu'on veut écrire et qu'on veut fabriquer ensemble. Cette stratégie sur le long terme, me semble-t-il, n'existe pas, ni dans les stations de ski, ni à des niveaux supérieurs de type région.
Ouais, là, je partage malheureusement le même ressenti que toi et on se renvoie un peu tous la patate chaude, c'est-à-dire que on se dit que c'est au maire d'après, à la campagne électorale d'après, ou au département. Et c'est un peu celui qui prend le sujet à bras le corps qui aura le dernier mot. En tout cas, on n'a pas du tout de cohérence. On pourrait en avoir une alpine ou une française sur les montagnes et devenir la région la plus verte ou la plus ludique ou la plus développée l'été pour le Tyrol, par exemple. On a quand même des beaux exemples au niveau écologique sur le nord de l'Europe, de stations qui sont engagées, qui crient haut et fort, et tu sens d'un seul coup que tu adhères à un projet, il y a du sens, et tu ne vas pas juste pour vivre du ludique ou du ski, mais tu vas parce que tu adhères à un projet local. Et effectivement, on manque de vision, de courage et d'affirmer un axe fort.
Alors que tous les paramètres sont présents, c'est-à-dire que la montagne est un territoire suffisamment riche pour être capable de se transformer. Et tu l'as rappelé au tout début, et je t'en remercie, parce qu'on l'oublie et on ne le dit pas assez, c'est que dans les années 50 à 60, il y a eu un courage de la part des populations locales qui ont accepté de passer de paysans, d'une agriculture agropastorale depuis des siècles, à quelque chose qui était du tertiaire, c'est-à-dire du service, devenir moniteur de ski, devenir patron de magasin, commerçant. Donc il y a eu un saut dans l'inconnu qui s'est fait avec beaucoup de courage. À la fois, la montagne est un terrain fantastique et les habitants de la montagne sont capables de ce genre de décisions courageuses. Donc pour moi, on a plutôt des bons paramètres pour transformer notre business model.
C'est jamais facile de sauter vers entre guillemets l'inconnu, comme tu disais, mais c'est vrai que si on est sur la fin d'une vague, il y en a une autre qui arrive en fait dans l'autre sens et elle est verte, et prenons-la dans le bon sens pour la surfer bien. Et c'est flagrant qu'il y a des très bons signaux, et cette fois c'est un peu inversé, c'est pas forcément en haut de la montagne qui sont les plus faciles à... Donc c'est la montagne moyenne altitude qui sera touchée en premier et qui doit se réinventer en premier et qui va donner exemple en premier, parce que vraiment on le voit dans nos lieux, dès qu'ils sont sincères et atypiques, il y a une clientèle étonnante qui débarque, qui n'était pas forcément des skieurs d'avant, mais ça peut être des gens qui viennent juste se marier, des gens qui viennent en séminaire, des gens qui viennent vivre, et qu'on arrive à transporter de lieu en lieu selon la qualité de la décoration au service, en passant par les équipes évidemment. Donc en fait, les gens sont, on l'avait vu à l'époque avec le groupe Sibué, les Femmes de Marie, je remonte un peu dans le temps là, mais ils nous ont bien montré une autre manière d'accueillir Et puis, il y en a eu plein d'autres depuis aussi qui ont su donner le tempo.
La Folie Douce, par exemple.
Exemple, tout à fait, oui. À chaque fois, c'est une histoire quand même de contenu, de produit, de sincérité. Et maintenant, il y a des nouveaux critères consommateurs qui rentrent en jeu, dont l'empreinte. C'est-à-dire qu'il est temps d'avoir des lieux où l'empreinte est raisonnée, des lieux apprenants où on nous aide à vivre mieux, à manger mieux. Et la montagne serait un territoire parfait pour ça. Comme il y a eu le climatisme dans les années 60 aussi, avant le tourisme, avant le ski. On venait à la montagne dans le Vercors, on disait une semaine à Villard-de-Lans, la santé pour un an. Et ce n'était pas beaucoup plus que ça. La gymnastique, bien manger et du soleil.
Et on peut remonter aussi au sanatorium de la fin du 19e siècle. Quelles seraient, selon toi, pour terminer, Tom, les actions urgentes à mener pour avancer?
Donc moi, je pense deux principalement. C'est écouter les consommateurs, donc partir du consommateur. C'est plus facile à dire qu'à faire, c'est-à-dire les écouter pour de vrai. C'est-à-dire, et puis après, il faut tester. Il faut vraiment vite, comme dans le monde du start-up actuel, il faut qu'on arrive à désobéir, à accompagner ceux qui tentent et pas trouver toujours la raison habituelle de dire « c'est pas possible, ta convention ne permet pas de, sur le chemin, tu n'as pas le droit de faire ça ». Dans ce bâtiment construit, tu ne peux plus transformer vert. Il faut qu'on arrive à accompagner. Ça ne veut pas dire forcément désobéir pour dire qu'il n'y a pas de règles. Ça veut juste dire accompagner les 3 ans, les 5 ans de personnes, de groupements qui vont tenter des nouveaux paris pour faire revenir les résidences secondaires, c'est-à-dire qu'elles habitent ici, qu'elles télétravaillent ici, pour amener de l'habitat insolite, puisque c'est très tendance, dans des manières qui vont à tous les usagers et pas toujours continuer à l'inverse, vers la monoculture. Et
ça veut dire accepter de prendre le risque de se tromper aussi.
Exactement. Et peut-être que le plan montagne, il devrait financer cette partie. C'est-à-dire que si on nous aidait à nous dire « tu as le droit de te tromper », c'est plus facile de tenter les choses. Ça me fait penser au modèle économique de l'ADEME, qui ne s'intéresse pas à l'isolation de ta maison, mais qui s'intéresse à « si tu fais des paris nouveaux, eh ben, mon rôle, c'est de t'accompagner et de payer la différence, en fait ». Et du coup, on partage, et après tout ça en open source pour que ça serve au plus grand nombre de stations et d'acteurs de montagne.
Est-ce que tu es quand même confiant dans la capacité des acteurs divers et variés, des stations de ski et du business du sport d'hiver, à travailler ensemble et à se reconnaître en tant que groupe faisant face aux mêmes dangers et aux mêmes opportunités, et d'avoir une action collective?
L'action collective, on l'a un peu vu en période de crise l'an dernier quand il n'y avait pas de remontée. Mais finalement, c'était que 3 acteurs qui discutaient entre eux. Et je répondrais oui, on va y arriver parce qu'on n'aura pas le choix. Mais il faut que la crise soit d'autant plus forte, comme celle au pluriel qu'on vit en ce moment. Mais j'ai plutôt confiance. Et en même temps, c'est vrai qu'on a tendance quand même à être très individualiste. On n'arrive pas à coopérer, à inventer des nouveaux modèles de propriété. On veut tous que ça change, mais on ne change pas grand-chose vraiment. Est-ce qu'on est tous dans un bus, aller dans une laverie, en commun? Je ne crois pas. Donc, en fait, c'est un peu là où j'ai des doutes sur notre être humain à s'adapter et à changer. Mais cela dit, pour les montagnards, j'ai une grande confiance, puisqu'on arrive de loin et qu'on a la chance d'avoir des environnements pareils.
Je retiens cette phrase. Oui, on y arrivera parce qu'on n'a pas le choix.
Mais c'est souvent ça, hein. C'est le célèbre mot crise en chinois qui veut dire opportunité ou danger. C'est le même mot. Les montagnards ont déjà montré qu'ils savaient le transformer en opportunité.
On pourrait dire de façon un petit peu plus basique et concrète que la rentabilité de demain se prépare, s'investit, se construit aujourd'hui.
Mais ça, c'est une règle industrielle et de tout le monde, en fait. La R&D d'aujourd'hui, c'est avec les moyens de l'activité et du modèle économique d'aujourd'hui qu'on doit absolument, absolument fabriquer le cycle produit de demain. Et donc, c'est peut-être ce qu'on ne fait pas assez quand c'est trop facile. Mais pour de vrai, les gens viendront si c'est bien. Et dans bien, il ne faut pas oublier d'étudier avec ces personnes-là, ces cibles-là, de quoi sera fait le bien de demain. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans une assiette? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher sur une montagne? Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus de télésièges. Au contraire, on en a besoin. Il faut rendre accessibles nos montagnes, c'est certain.
Donne-nous peut-être, pour terminer, un exemple d'action que toi, tu as mis en place pour tes business et qui a eu, de façon surprenante pour toi, qui a eu un grand succès.
Bon alors, si on est juste aubergiste, un peu perdu, sans eau, sans électricité, ça part mal. Et en fait, on est allé beaucoup plus loin, c'est qu'on est devenu vraiment exemplaire au niveau d'un restaurant autonome. Et ça, c'est des choses qui plaisent, mais qu'il faut arriver à raconter. Donc, une fois par semaine, on propose l'envers du décor, et c'est gratuit. Et on, comme EDF qui ouvrait ses centrales, nous, on ouvre l'arrière-boutique et on présente l'installation et ses galères, le gel, les coûts de maintenance. Et en fait, c'est le genre de choses où finalement, les gens, ils viennent plus, dans ce cas-là, dans ton restaurant que pour manger une raclette, mais ils viennent pour comprendre la démarche, ils viennent et ils acceptent avec... que le modèle économique évolue un petit peu. C'est-à-dire que le gratin de ravioles doit rester au prix de marché, mais ils comprennent que tu amènes un peu plus de services autour parce que tu t'occupes de la montée du parking jusqu'à la redescente avec un flambeau. Et d'un seul coup, ils passent pas, ils vont pas juger la raclette à 22 euros, ils vont se dire est-ce qu'on a passé une bonne soirée à 50. Et je trouve que nos métiers, dès que ça devient sincère et plus sur la mise en scène, ça marche à tous les coups. Parce que du coup, avec cette marge-là, on peut mieux payer les équipes, on peut mieux continuer à développer et à se tromper, comme tu disais aussi. Et du coup, petit à petit, on se fait un peu avoir par le jeu. Depuis, on a créé des troupes de théâtre en pleine nature pour aller accéder à ce restaurant. On a mis des guirlandes en pleine forêt. Et on s'est rendu compte que notre métier, ça ne se jouait pas que dans l'assiette. Je prends cet exemple du restaurant, mais sur la diversification vers l'hébergement, c'est pareil. Les gens nous font confiance pour vivre un moment avec nous en montagne. Et comme par hasard, ils sont prêts à faire des fortes marges, bien plus que ce qu'on pouvait imaginer en fait. Donc voilà, ça devient vertueux parce que c'est mieux fait pour la planète, mieux fait pour le compte de résultat et surtout mieux fait pour le consommateur qui dit c'était bien, j'ai jamais vécu ça. Et voilà. Notre job, je pense que ça va être ça demain, c'est de créer des expériences, des moments d'étonnement à nos clients et puis ensuite travailler la fidélisation et puis pas les perdre, quoi.
Bon, bah, va falloir commencer par trouver des solutions pour les bouchons automobiles pour monter en station et en redescendre le soir.
C'est vrai, on va les faire dormir sur place.
Bonne idée. Bon, merci beaucoup Tom en tout cas et merci d'être descendu de ton plateau du Vercors pour participer à ce podcast. À très bientôt, merci.
Merci à vous.
Les trois idées que l'on peut retenir de cette conversation, c'est d'abord d'écouter le client, de vraiment écouter le client, puisque nous sommes passés d'une ère d'équipement à une ère de service. Deuxième idée, il faut tester, prototyper et prototyper encore, désobéir et surtout accompagner ceux qui essayent parce qu'ils ont le droit de se tromper. Troisième point, il faut développer une stratégie ou des stratégies de long terme avec une cohérence entre les différents acteurs. Or aujourd'hui, ils se renvoient plutôt la patate chaude. Et ce n'est pas, au niveau de la région, une opération de communication comme le tourisme bienveillant qui va tenir lieu de stratégie de long terme. Sans cap, sans route, sans cette direction-là, on ne pourra pas emmener tout un territoire dans la transformation. Ce podcast est produit par Benjamin Blanc de la Régie des Pistes de la Vallée des Belles-Villes et Guillaume Desmures. Réalisation, Guillaume Desmures pour Murmure Studio. Mise en onde, Sébastien Pintiot pour Homework Studio. Musique, Jérémy Rassa. Diffusion, Clotilde Drouet.